Elle se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission sur les droits humains du mois de juin 2021. C'est 2021, on est. Oui, c'est ça, c'est 2021.
Oui, c'est ça,
bon, voilà. J'avais une hésitation sur l'année tout d'un coup. Donc, voilà, avant la pause estivale, puisque donc on vous retrouvera maintenant en direct sur l'antenne de Principes Actifs deux fois par mois, mais au mois de septembre. Donc voilà, et on va commencer par une information locale qu'on va vous donner en début d'émission là tout de suite et qu'on vous redira à la fin. Mais je voulais quand même vous préciser que pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Claire Lys.
Bonsoir.
Qui m'a confirmé là qu'on était bien en 2021. Et Edith.
Bonsoir.
Donc voilà, dimanche, j'espère que vous êtes déjà au courant et que vous avez déjà réservé votre journée, parce que dimanche...
On va vous retrouver.
C'est ça, exactement. On vous retrouve après plus d'un an d'absence de manifestations publiques, hein, vous savez bien pourquoi, à cause de la pandémie et de toutes les mesures sanitaires. Et donc on est très heureux de vous retrouver pour une foire aux livres, donc dimanche de 10h à 17h, devant notre local, sur le parking, enfin la place... C'est mieux que parking. À la place du Faubourg Saint-Léger, là, à l'espace Saint-Léger, voilà, à la sortie d'Évreux, en allant vers Gravigny-Cap-Caire, dernier rond-point.
Si vous arrivez vers 9h, 9h30, vous inquiétez pas, nous, on sera là très tôt pour mettre en place les bouquins, parce que Didier, il dit 10h, mais souvent, les gens, ils arrivent à...
Allez, on accepte, allez, 9h20.
Et vous serez quand même accepté, voilà.
Non, mais il faut un peu de discipline.
Avant, non.
Il faut un peu de discipline, donc voilà. Donc enfin, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette foire aux livres. Donc il y aura des milliers de livres vendus à titre...
Des prix, des promotions,
très modiques. Voilà, exactement. Donc tout ce qu'il faut pour prévoir vos lectures pendant les vacances d'été, et puis autres, hein, puis refaire votre bibliothèque aussi. Et aussi, on vous rappelle qu'il y aura des stands d'action pour Amnesty, des pétitions à signer, venir discuter avec nous aussi sur tout ce qu'on fait dans le courant de l'année, et tout ce qu'on va... pouvoir enfin reprendre de façon publique si la situation sanitaire continue à s'améliorer, ce qu'on espère bien sûr pour tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Effectivement, c'est avec grand plaisir, comme vous le disait Edith, qu'on se retrouve donc dimanche 4 juillet.
Alors voilà. Juste pour vous dire quand même, c'est qu'on va quand même rester prudent parce qu'on le fait en plein air. La situation sanitaire s'améliore, mais il y aura quand même à l'entrée... on vous demandera de vous passer du gel sur les mains.
Il y aura un sens obligatoire.
S'il y a vraiment beaucoup de monde, on demandera aux gens de garder les masques. Si vraiment il y a beaucoup, beaucoup de monde. Bon, après, si vous êtes tout seul devant...
Il y aura du monde.
Non, mais ça dépend des moments de la journée.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on sait très bien
votre
foire aux livres, puis vous serez les bienvenus.
Voilà, vous amenez votre petit sac pour mettre vos livres.
On n'aura pas beaucoup de sacs à donner, par contre, donc on va essayer d'être
au top au niveau sanitaire et surtout vous revoir.
Comme dirait Didier, amenez vos emballages.
Oui.
Oui, c'est ça qu'il y a sur les affiches.
C'est ce qui est marqué sur l'affiche.
Les emballages, c'est des sacs.
C'est moi qui avais donné la formule à l'imprimeur. Donc, effectivement, amenez vos emballages, c'est amenez vos sacs, bien sûr.
Voilà,
c'est ce que je voulais dire.
Ils ne sont pas emballés, ils ne sont pas en cadeau, les gens. Ils emmènent les livres chez eux.
Ah non, ce n'est pas les gens qui sont emballés.
Mais on ne savait pas trop les emballages, j'ai eu un doute.
Par contre, j'espère que les gens ils seront emballés, mais c'est par les bouquins qu'on va proposer et aussi ce qu'on va leur proposer au niveau action pour les droits humains, parce qu'on rappelle quand même que c'est notre raison d'être.
On va peut-être aller jusqu'au bout de nos rappels. C'est que la vente des livres, quand vous donnez des livres et que nous, on les revend, ça nous permet de vivre, le groupe d'Amnesty. C'est nos frais pour payer la cotisation à Paris et pour pouvoir faire des manifestations. Donc, sachez aussi que vous faites aussi une action qui promeut les droits humains.
Bah, en fait, c'est la première action militante pour nous soutenir, c'est déjà effectivement bah, d'acheter des bouquins, c'est clair.
De nous les donner.
Voilà, on fonctionne même au niveau local sans absolument aucune subvention par principe pour ne pas avoir de compte à rendre à personne. Voilà, donc c'est le public qui nous finance, c'est le public qui finance Amnesty au niveau local, national ou international. Ce n'est que le public qui nous permet d'exister. Voilà. Justement, par rapport, on vous parlait de, bah, des contraintes sanitaires qu'on va quand même respecter dimanche, bien sûr. Et donc, ça m'a permis, moi, de faire un petit communiqué de presse aussi par rapport en lien par rapport à notre foire au livre, alors que je vais vous lire là rapidement, et qui fait un petit peu le point sur la situation des droits humains et de la pandémie, telle que Amnesty International, effectivement, enfin, c'est le point de vue d'Amnesty, mais ça reprend des choses qui sont frappé au coin du bon sens par rapport au respect des droits humains et à cette pandémie. Donc voilà. Alors que la pandémie Covid-19 semble marquer le pas dans certains pays, dont la France, Amnesty International rappelle que la manière dont les autorités répondent à cette pandémie et les mesures qu'elles adoptent ont des conséquences pour des millions de personnes. Dans ces circonstances extraordinaires, le respect des droits humains est plus essentiel que jamais. Amnesty International précise que les principes d'égalité, de solidarité et de non-discrimination doivent guider les réponses et les décisions des autorités. Les États doivent garantir pour tous le droit à l'accès aux soins en tant que droit universel et réagir à tout propos ou acte discriminatoire. Les droits des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées doivent être renforcés, ainsi que ceux des personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'assainissement, etc. Par ailleurs, dans le contexte actuel de confinement, les femmes et les enfants sont plus exposés à la violence domestique et leurs droits doivent être protégés et garantis grâce à des mesures adaptées à cette situation exceptionnelle. Malgré l'épidémie de Covid-19, des personnes continuent de fuir les guerres, les persécutions, les violences et des conditions de vie désastreuses. Amnesty International demande que les droits des personnes migrantes et réfugiées qui viennent chercher une protection sur le territoire français, soient garantis pendant cette période. Le droit d'asile ne souffre aucune dérogation, même si les mesures de confinement ont un impact sur les procédures administratives. Et la situation d'urgence sanitaire permet aux autorités et gouvernements de suspendre des droits fondamentaux tels que la liberté d'aller et venir ou la liberté de réunion pacifique. Restrictions permises par le droit international afin de répondre à des situations de crise ou de danger exceptionnels. Cependant, ces mesures doivent rester nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps. Enfin, rappelle Amnesty, l'épidémie mondiale de Covid-19 impacte nos sociétés dans leur ensemble, y compris le fonctionnement de nos institutions. En ces temps troublés, les tentations peuvent donc être grandes pour les autorités et gouvernements de se détourner des droits fondamentaux. Nous devons donc rester vigilants afin de vaincre la pandémie dans le respect des droits humains. Et voilà. Et donc, à la fin de ce communiqué, j'appelle tout le public hébroïcien à venir nous retrouver dimanche pour aussi discuter de tout ça. Voilà. Mais je crois que par rapport à l'épidémie de Covid, il y avait Claire-Lise qui voulait vous faire part de quelques informations.
Bah justement, donc ça, dans la chronique d'Amnesty, c'est un article qui a été fait parce que souvent, dans le monde, et dans le monde entier, hein, je ne parle pas que de la France, là, il y a quand même beaucoup de pays où les réfugiés sont les laissés pour compte de la vaccination et n'ont pas les mêmes accès aux droits et à la santé que le reste de la population. Donc, dans certains pays, les personnes réfugiées sont exclues des plans de vaccination. Dans leur lutte contre le Covid-19, les gouvernements doivent prendre en compte la situation de vulnérabilité de certaines personnes et communautés. Ils doivent garantir un accès non discriminatoire aux vaccins et aux soins, comme vous disiez Didier tout à l'heure, y compris pour les personnes réfugiées et migrantes. Or, dans de nombreux pays, les personnes réfugiées voient leur accès aux vaccins retardé et freiné par différents obstacles. Discrimination, désinformation, exclusion des plans de vaccination. Ces problèmes reflètent les difficultés que rencontrent quotidiennement les personnes réfugiées qui tentent d'accéder aux systèmes de santé nationaux. En avril 2021, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, 153 pays avaient développé des stratégies nationales de vaccination contre le Covid-19, incluant les personnes réfugiées. Cependant, peu de plans indiquent comment, en pratique, elles peuvent y avoir accès. La Jordanie et le Rwanda, donc 750 000 et 138 000 personnes réfugiées accueillies dans ces deux pays, ont montré l'exemple en vaccinant ces personnes en même temps que leurs ressortissants. Mais d'autres pays, tels que le Bangladesh, 800 000 réfugiés Rohingyas, et l'Ouganda, 1,4 million de réfugiés, ont annoncé qu'ils vaccineraient les personnes réfugiées, mais n'ont pas encore précisé les modalités pratiques. À l'inverse, la Colombie, dont vous aviez fait une émission spéciale la dernière fois, a cherché dans un premier temps à exclure les personnes réfugiées. En décembre 2020, le président colombien a annoncé que les Vénézuéliens en situation irrégulière seraient exclus des stratégies de vaccination. Cette annonce a suscité un tollé international. Plus tard, en février 2021, le gouvernement a fait marche arrière et a annoncé l'octroi d'un statut de protection temporaire pour les Vénézuéliens entrés en Colombie avant le 31 janvier 2021, leur donnant ainsi accès à la vaccination. Néanmoins, la procédure d'officialisation de leur nouveau statut pourrait prendre des mois, ce qui repousse d'autant leur vaccination. Même si, sur le papier, les plans de vaccination prévoient d'inclure les personnes réfugiées des incertitudes et des failles qui persistent. Certains pays décident même délibérément de repousser la vaccination des personnes réfugiées. La Grèce, par exemple, où vivent 120 000 personnes réfugiées, avait annoncé que la vaccination dans les camps de réfugiés ne débuterait qu'au mois de mai, soit plus de 4 mois après le début de la vaccination de la population grecque. Le ministre de la Santé a affirmé qu'il n'y avait aucune raison de commencer la vaccination plus tôt, car les personnes réfugiées dans ces camps n'appartenaient à aucune catégorie prioritaire. Pourtant, elles doivent bel et bien être intégrées dans les catégories prioritaires en fonction de leur état de santé et d'autres facteurs. En effet, les personnes réfugiées n'ont souvent qu'un accès limité aux services de santé et sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, ce qui augmente le risque de comorbidité. L'Union européenne a établi une liste de groupes à vacciner en priorité et les personnes qui ne peuvent pas appliquer les règles de distanciation et qui sont désavantagées sur le plan socio-économique y sont incluses, ce qui est le cas de nombreuses personnes réfugiées. Donc, je ne vais pas vous lire tout l'article parce que c'est long et puis on a beaucoup de choses, mais je vais quand même vous continuer un petit peu. Quand même, la vaccination, c'est un droit, ce n'est pas une option. Vacciner les personnes réfugiées et migrantes n'est pas seulement un impératif légal et moral, mais c'est également une nécessité médicale. En effet, selon les experts de la santé publique, au moins 70% de la population doit être immunisée afin que la propagation du virus ralentisse considérablement. Ainsi, il est dans l'intérêt des pays d'accueil de favoriser la vaccination de toute la population, y compris des ressortissants étrangers qui vivent sur le sol. Donc, la majorité des personnes réfugiées vivent dans des pays en développement et leur accès à la vaccination en est d'autant plus difficile. En effet, l'offre en termes de vaccins est inégale dans le monde. Ça se surajoute. Afin de soutenir les pays qui ne peuvent financer l'achat de vaccins pour l'ensemble de leur population et afin de garantir une distribution équitable des vaccins, l'Organisation mondiale de la santé a établi un mécanisme global d'approvisionnement, le COVAX. Donc le dispositif COVAX a commencé à distribuer des doses afin de couvrir progressivement la population de tous les pays en fonction des priorités. Cependant, le mécanisme manque considérablement de ressources, ce qui l'empêche de distribuer des vaccins rapidement aux endroits où leur administration est cruciale. Par ailleurs, rien ne garantit que les personnes réfugiées puissent bénéficier de ces doses supplémentaires, car les États peuvent les distribuer comme bon leur semble. Donc c'est vraiment très préoccupant, parce qu'il y a vraiment des pays dans le monde où déjà l'accès aux soins est difficile, l'accès aux vaccins est difficile, et alors en plus, pour les réfugiés qui vivent dans ces pays-là, eh ben c'est quasiment le non-accès aux soins. Et pour terminer, donc pour refaire un petit point quand même sur ce que devraient faire les États, donc pour que personne ne soit laissé pour compte dans l'élaboration et le déploiement des campagnes de vaccination, notamment les personnes réfugiées et migrantes, les États doivent mettre en place des campagnes de sensibilisation et fournir des informations fiables et accessibles sur la vaccination, donc disponibilité, éligibilité, modalité d'inscription pour les personnes réfugiées afin de lutter contre la désinformation, garantir aux groupes marginalisés, indépendamment de leur statut juridique, un accès équitable à la vaccination sans discrimination et garantir qu'aucun lien ne sera établi entre le processus de vaccination et le statut juridique des personnes migrantes, notamment en veillant à ce que les données personnelles récoltées ne soient pas utilisées à des fins de contrôle migratoire. Parce que forcément, le naturel revient fort au galop.
Bien sûr. Et juste une chose qui m'est revenue à l'esprit pendant que je t'écoutais, Clarlis, c'est que, par exemple, un pays, en parlant d'inégalité pour l'accès au vaccin, donc l'accès aux soins, le Canada, par exemple, a préempté, enfin, a acheté à l'avance l'équivalent pour vacciner 3 ou 4 fois sa propre population. C'est bien sûr au détriment de pays qui n'ont pas les moyens financiers pour faire ce genre d'opération, comment dire, immorale. Voilà, on dira ça, immorale. On va changer complètement de sujet. Je crois qu'il y avait Edith parler de biométrie. Mais c'est quoi ça donc, la biométrie ?
Eh bien, la biométrie, c'est là, les petits téléphones. Tu sais, quand tu mets le doigt ou tu mets ton petit visage et puis qu'il te reconnaît. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Et Amnesty, ça fait déjà quelques fois qu'on parle de tous ces moyens qui sont censés faciliter la vie des gens, mais qui pourrait cacher beaucoup plus de travers comme une surveillance un peu intensive. Et donc Amnesty, et avec plus de 170 organisations, demande l'interdiction de la surveillance biométrique. Et alors Amnesty, je vous dis un peu les partenaires, parce que c'est vraiment quelque chose de mondial. Ça ne correspond pas simplement à l'Europe, c'est vraiment quelque chose de discuté au niveau des associations. Donc il y a Access Now, Internet Freedom Foundation, alors EDRI, je ne sais pas ce que c'est, et Human Rights Watch, et un institut du Brésil de défense des consommateurs. Je vous le dis en français parce que là, j'ai réussi à le traduire et je ne connais pas du tout le portugais le brésilien. Donc, ça va être plus simple. Donc, ils ont joint leurs forces, donc il y en a plus que ça, puisque 170, dans une lettre ouverte pour réclamer l'interdiction totale du recours aux technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance biométrique à distance qui permettent une surveillance de masse et une surveillance ciblée discriminatoire. Alors l'article, il est très très long et j'ai fait comme Clarlis, j'ai enlevé les choses qui me semblaient... c'est très bien expliqué, si quelqu'un veut vraiment aller se mettre dedans, vous allez retrouver sur Amnesty cet article-là. Mais ce qui m'a semblé important, c'est en quoi ces surveillances et ces technologies nouvelles peuvent très rapidement... selon la façon dont on les utilise, être déviés de leurs bienfaits pour chaque individu. Et pour qu'Amnesty et les associations en demandent réellement l'interdiction, c'est que le danger est quand même assez important. Donc, la lettre ouverte. Nous, sous-signés, demandons l'interdiction totale du recours aux technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance biométrique à distance qui permettent une surveillance de masse et une surveillance ciblée discriminatoire. Ces outils ont la capacité d'identifier, de suivre, de distinguer, de repérer des personnes où qu'elles aillent, compromettant ainsi nos droits fondamentaux et nos libertés civiles, notamment les droits à la vie privée et à la protection des données, le droit à la liberté d'expression, le droit à la libre association, les droits à l'égalité et à la non-discrimination. Nous avons constaté que les technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance biométrique à distance sont utilisées afin de rendre possible une longue liste de violations des droits humains. En Chine, aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, en Ouganda, au Kenya, en Slovénie, au Myanmar, aux Émirats arabes unis, en Israël, en Inde, la surveillance visant manifestantes et civiles a compromis le droit des personnes à la vie privée et à la vie de libre association. Je n'avais pas la bonne page devant moi, désolée. Les arrestations injustifiées des personnes innocentes aux États-Unis, en Argentine et au Brésil ont porté atteinte aux droits de ces personnes à la vie privée, au droit à un procès équitable et au droit de circuler librement. La surveillance de membres de minorités ethniques et religieuses, ainsi que d'autres populations marginalisées et opprimées. En Chine, en Thaïlande, en Italie, a bafoué le droit de ces personnes à la vie privée et à leur droit à l'égalité et à la non-discrimination. Donc, la portée de notre appel couvre un vaste ensemble de technologies, du système de reconnaissance faciale qui déverrouille votre téléphone ou autorise l'accès à certains espaces, à la technologie identifiant votre démarche, en passant par des systèmes prétendant détecter l'identité de genre ou l'état émotionnel. Notre appel à interdiction porte spécifiquement, sans toutefois y être limité, au recours de ces technologies, afin d'identifier ou de distinguer une personne dans un large groupe d'individus. Soit le fait de procéder à une identification faciale ou biométrique en comparant une personne par rapport à un groupe, et nous déplorons que ces technologies soient employées afin d'identifier, de distinguer ou de suivre à la trace des personnes en utilisant soit leur visage, leur démarche, leur voix, leur apparence personnelle ou toute autre donnée d'une manière qui permette la surveillance de masse et une surveillance ciblée discriminatoire, comme par exemple une surveillance ayant un impact disproportionné sur les droits fondamentaux ou sur les libertés de minorités religieuses, ethniques ou raciales. Si certaines applications de reconnaissance faciale ou de reconnaissance biométrique prétendent protéger la vie privée des personnes en n'établissant pas de lien avec leur identité juridique, elles peuvent toutefois être utilisées pour repérer certains individus dans les espaces publics et pour tirer des conclusions quant à leurs caractéristiques et à leur comportement. Et dans toutes ces situations, peu importe que des données soient rendues anonymes afin de les protéger, les informations qui permettraient d'identifier les personnes sont traitées ou localement, par exemple dans un réseau de périmètre, nos droits. Alors voilà la quatrième feuille qui se cache. Voilà, nos droits sont compromis, quoi qu'il arrive, parce que ces outils sont essentiellement conçus pour rendre possible et autoriser la surveillance d'une matière qui est incompatible avec nos droits. Alors, je vais un peu raccourcir parce que c'est vrai que c'est un peu redondant sur les termes, mais c'est vraiment, moi j'ai appris qu'il y avait aussi qu'on pouvait, avec les théories de reconnaissance biométrique, imaginez dans un groupe quelqu'un qui aurait une émotion. On pourrait dire, par exemple, quelqu'un qui a des soucis et qui va transcrire quelque chose de l'ordre de la peur et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très dangereux parce que c'est sûr que ça ne va pas être juste. Ça ne va pas être forcément quelque chose. C'est pas installé sur des... C'est de l'apprentissage de ces techniques. On leur a appris à reconnaître un visage qui a peur, un visage qui est courageux, un visage qui se cache. Donc, on peut imaginer après qu'avec des systèmes comme ça, effectivement, on est à la merci d'une lecture, forcément qui sera une lecture technique, et à partir de là, déboucher sur des arrestations. Et on sait qu'à certains moments, il y a déjà un moment en Chine, dans les gares, des opposants comme ça se sont fait complètement arrêter simplement avec une reconnaissance biométrique.
Tout à fait. C'est déjà effectivement en Chine des techniques qui sont déjà utilisées, c'est sûr.
Voilà, en Israël aussi, qui sont très très forts, même s'ils ne les utilisent pas forcément. Et les États vont aussi essayer de promettre que tout va être fait dans la règle de l'art, alors qu'on sait très bien que ces techniques vont être, les données vont être échangées, ne serait-ce que pour faire une meilleure surveillance, puisque c'est ça qu'ils vont nous proposer. Donc ça sera aussi bien du privé, hein, faut pas se faire d'illusions, que de l'État, et qu'en plus ça va pouvoir arriver. Une donnée informatique peut très bien changer d'endroit très rapidement sans qu'on en soit vraiment attentif, quoi. Et donc je pense que cette action, qui est quand même une grosse action internationale et pas du tout simplement de l'Europe, demande vraiment à être surveillée et demanderait à chacun de se rendre compte de ces dangers, qui sont des dangers qu'on n'a pas forcément en tête, mais tous ces dangers de ce qu'on nous prétend être plus facile pour nous, mais aussi beaucoup plus facile pour la répression et pour les États et démocratiques et totalitaires. Oui. On vous fera croire du danger de terroriste qui
oui, c'est permet... Ça. Bah, c'est sous couvert, de toute façon, sécuritaire, ils en profitent pour mettre en place une surveillance de masse. Et on a bien vu, de toute façon, quand il y a eu les lois sécurité là, contre l'état d'urgence, c'était d'abord les militants qui souvent se sont retrouvés, même en France, arrêtés, des gens militants d'opposition, qui étaient arrêtés, qui étaient en surveillance, enfin, qui avaient des arrêtés
d'assignation
à résidence, des aberrations, et alors que c'est pas du tout des terroristes, quoi, c'est juste des opposants dans un pays où le droit de manifester, le droit de s'exprimer est censé être libre. Alors on imagine que déjà la tentation est grande en France, mais des pays qui, bon, allez. On va parler peut-être de Monsieur Poutine et de Monsieur, l'autre en Chine.
Oui.
Bon, ils n'ont pas tout à fait la même encore le.
Ils n'ont pas les mêmes valeurs.
Ils n'ont pas. Enfin, disons que eux, dans leur arsenal, ça leur plaît bien, ça. Voilà.
Bah, il y a quelque chose dont on est tout à fait conscient à Amnesty, c'est que quand on commence effectivement à remettre en cause nos droits fondamentaux, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Donc.
Peut peut-être faire un petit parallèle là, avec le programme parlementaire là qui se prépare.
Oui.
Mais désolé, ça te coupe.
Mais j'y pensais parce que
c'est pas sympa ce qu'ils sont en train de nous faire pour l'été.
On va en parler après. Ne quittez pas l'écoute, mais là il est grand temps qu'on fasse ta première pause musicale et on vous retrouve juste après.
On va vous dire ce qui vous prépare.
Suerte las abandone, no hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena que me duele cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que está viviendo. Puede reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, la voz no se callará, resistirá. En las montañas y en los ríos que han caminado en el olvido, se cantará. Sirven los argumentos cuando hay dolor y no quiero verlo, no puedo verlo, que me duela cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo, que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea.
No, no.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. On vient d'écouter, c'est un petit clin d'œil à l'émission d'il y a 15 jours, si vous ne l'avez pas écouté en direct, allez sur le site, vous pouvez réécouter le podcast. Notre émission d'il y a 15 jours, où on avait invité Maria, qui est une avocate colombienne, à nous expliquer la situation des droits humains dans son pays. Et donc, c'était une illustration musicale qu'elle nous avait demandé. Et ça s'appelle, enfin, la chanteuse s'appelle Adriana Lucia. Voilà, elle est colombienne. Et on vous l'a repassée avec beaucoup de plaisir. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on vous a dit juste avant la pause musicale.
Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit avant la pause?
C'est ça. Sur les contrôles biométriques et les atteintes aux libertés et aux droits.
Et les grands dangers de toutes ces choses-là.
Voilà. Et les atteintes aux droits.
Et comment les États se saisissent de la sécurité, de la lutte antiterroriste pour nous restreindre les libertés? Voilà.
C'est ça.
Et je pense que c'est intéressant parce que ce que.
Tu vas pas y arriver.
Mais non, mais ce que Didier va vous dire, je l'ai vu aussi sur le site d'Amnesty, et je n'en avais absolument pas entendu parler.
Non, non.
Et
ben
Claire Lise non plus.
Et la télé,
on va parler de la France.
C'est ça.
Donc, c'est ça. Voilà. C'est quand même un truc bien pourri qui est en train de se faire dans notre dos.
Carrément.
C'est
voilà.
Ça.
Donc,
c'est encore une fois un recul de nos droits fondamentaux. Et effectivement, le communiqué, il date d'aujourd'hui. Donc
alors, c'est une tribune dans le JDD. Hein, oui. Amnesty qui a fait une tribune le 29. Ah, vas-y, Didier, à toi.
Alors, ça commence comme ça. Ce mardi 29 juin, aujourd'hui, les sénateurs vont avoir 2 jours pour examiner le projet de loi sur le terrorisme et le renseignement. Cette loi modifierait durablement le droit français en rendant permanentes des mesures d'urgence et en renforçant les pouvoirs de surveillance de l'État. Sur le volet renseignement, le projet confirme et renforce les dispositifs de la loi de 2015 qui avait à l'époque provoqué une levée de boucliers. Début juin, les députés ont expédié les débats sur cette partie en quelques heures et rapidement adopté le texte. Si le Conseil constitutionnel peut censurer des dispositions, le signal envoyé aux autorités est très préoccupant.
Je suis en même temps, j'avais le même texte.
Je vois. Il n'y aura pas de deuxième lecture. Le gouvernement a engagé une procédure accélérée. Les parlementaires sont en train de voter au pas de course des dispositions attentatoires à nos droits et libertés. Que recouvre ce projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement? Toujours cet argument de la prévention d'actes terroristes. Alors donc, ce projet rend permanente des mesures issues de l'état d'urgence déclaré après les attentats de 2015, mesures qui renforcent les pouvoirs des préfets au détriment du judiciaire. Elles permettent d'imposer des assignations à résidence ou des perquisitions sur la base d'éléments vagues et de simples soupçons de l'administration. C'est une violation des engagements internationaux de la France sur le droit à un procès équitable. Ces dispositions existent déjà dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, mais elles devraient s'éteindre en 2021. Elles pourraient maintenant être définitivement intégrées au droit français. Autrement dit, chasser une répression par la porte, elle revient par la fenêtre. Le gouvernement n'a pas tenu compte des avis très critiques formulés par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le défenseur des droits de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de même qu'il a ignoré les appels en faveur d'une évaluation indépendante des impacts de ces mesures sur les droits humains. En revanche, il durcit encore les dispositifs en proposant d'allonger les durées des assignations et de les cumuler avec d'autres interdictions. En 2015, les experts des droits humains avaient aussi dénoncé la loi sur le renseignement qui autorisait une surveillance très large sur la base d'une liste extensive de motifs d'intérêt public mal définis, et ce, sans contrôle judiciaire préalable. Le projet de loi qui arrive au Sénat confirme et étend ces principes. Le recours aux algorithmes ou boîtes noires qui permettent une surveillance de masse, Edith vient de nous en parler, était encore expérimental. Il deviendrait définitif. Les échanges d'informations entre l'administration et les services de renseignement sont facilités, y compris pour des éléments relevant d'un degré protégé par la loi, professionnel ou médical. Plusieurs dispositions prévoient également l'extension de la conservation des données par les services de renseignement. Un effet cliqué qui rend très difficile tout retour en arrière. Ce texte arrive peu après la proposition de loi sur la sécurité globale, on vous en a parlé longuement dans nos émissions, et le projet de loi confortant les principes républicains, qui portent eux aussi atteinte au socle des droits fondamentaux. Si le Conseil constitutionnel peut encore censurer certaines dispositions, le signal envoyé par les autorités est très préoccupant. Ces dernières années,
de graves reculs ont eu lieu dans d'autres pays, y compris européens, comme la Hongrie ou la Pologne.
On est comme la Hongrie ?
Ben, en gros, oui, effectivement. Enfin,
il y a eu des pays où il y a eu du recul et on ne voudrait pas être comme eux. C'est ça.
Alors, Amnesty précise, il ne s'agit pas de comparer sans prendre en compte les différences. Ah. Mais l'expérience montre que la dégradation de la situation des droits humains est un processus qui peut être très rapide et se produire même au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, il existe un effet cliqué, comme on le disait, qui rend très difficile tout retour en arrière. Les attaques contre la justice, l'obstination à ignorer les recommandations des institutions internationales et les critiques contre les droits fondamentaux présentés comme des entraves au pouvoir des autorités sont des signes qui devraient nous alarmer. La lutte contre le terrorisme est souvent brandie pour justifier de tels reculs. Protéger les populations des violences est un objectif légitime, mais prendre des mesures qui génèrent des discriminations porte atteinte à la liberté de mouvement, au droit à la vie privée, étouffe la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, ou menace le droit à un procès équitable, est illégal au regard du droit international et bien souvent contre-productif. Les sénateurs devront s'en souvenir, on ne protège pas nos libertés en limitant nos droits. Voilà le communiqué d'Amnesty. Donc, il faut rester vigilant.
C'est l'actualité.
En plus, on n'en entend absolument pas parler, même pas sur les ondes. Enfin, ça se fait en catimini. Exactement. Ça va être voté pendant l'été, pendant que vous partez.
Là, même avant, puisque les sénateurs, les députés l'ont déjà eu et les sénateurs vont l'avoir dans la semaine.
C'est l'été depuis le 21 juin.
Oui, c'est l'été.
Tu vois pas comment il fait beau ?
Mais moi, j'ai dit le mois de juin et le mois de juillet bientôt, quoi. Voilà.
Ben oui, mais on est l'été.
Voilà. Mais en parlant de beau temps, on vous rappelle que le temps va s'améliorer dimanche.
Ah, dimanche, oui, très, très beau. Vous amenez vos chapeaux de soleil.
On aura un nuage.
C'est ça. On a des informations météo spécifiques.
Spécifiques. Ouais. C'est juste au-dessus de l'espace Saint-Léger.
Donc voilà, encore une fois, ça se passe chez nous ici en France. Et encore une fois, des projets de loi menacent nos libertés et droits fondamentaux. Et ben, on est très, très inquiets nous-mêmes par rapport à ce genre de situation.
Il y aura peut-être effectivement le Conseil constitutionnel qui va bloquer quelque chose. Mais je pense que c'est intéressant. Parce que quand tu l'as lu, ça m'a permis de faire une deuxième écoute. Je l'avais lu de mon côté. Parce que l'effet cliqué, t'entends bien le truc. C'est hop, on avance un cas, on ne retourne jamais en arrière. Quoi. On pose les affaires. Quoi. Et quand on voit que tout politique confondu mettent la sécurité en avant de leurs propositions ou de leurs discours ou de leurs discussions, bah, ça fait quand même un peu peur parce que c'est vraiment trouver de l'eau pour alimenter leur moulin, mais toujours au détriment de l'individuel et des droits fondamentaux.
C'est ça. Et pour rappel, par exemple, avant les attentats de 2015, ce qu'on fait le plus de morts là récemment, le nombre de lois pour lutter contre le terrorisme, on devait déjà être arrivé en une vingtaine d'années à une quinzaine de lois qui avaient été votées pour lutter contre le terrorisme. On a bien vu leur efficacité pour protéger la population. Donc voilà, c'est le problème qu'on peut se poser, c'est en plus de nuire à nos libertés, ça ne sert pas à grand-chose dans les faits. Voilà. Il y avait Claire Lys qui voulait vous parler de la Grèce, et ça tombe bien parce que justement, comment on va y partir en vacances dans peu de temps.
Moi, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais il se passe quand même des choses parfois assez inquiétantes en Grèce. Alors, c'est vrai que c'est un des pays européens qui accueille, enfin, qui a des flots de population qui arrivent dans les îles grecques, hein, pas forcément sur le continent, mais dans les îles, il y a énormément de réfugiés qui se retrouvent bloqués en Grèce. Et on a déjà parlé à plusieurs reprises des difficultés sous ces populations sur certaines îles l'hiver où ils ont à peine à manger, etc.
Il fait très froid.
Et ils sont vraiment dans des situations très difficiles. Et là, en fait, on alerte. Hein, donc ça a été publié le 23 juin au niveau d'Amnesty International France. Il y a eu tout un rapport qui a été établi sur une année et qui fait état d'actes de torture et d'arrestations violentes commis par le gouvernement grec à l'encontre de personnes réfugiées ou migrantes. Le pays systématise également les renvois forcés vers la Turquie, et ce, en toute illégalité. Donc les forces grecques postées aux frontières arrêtent violemment et illégalement des groupes de personnes réfugiées ou migrantes avant de les renvoyer sommairement en Turquie. Ces agissements bafouent les obligations du pays en matière de droits humains au regard du droit de l'Union européenne et du droit international. Pour l'élaboration de ce rapport,
Amnesty donc s'est entretenue avec 16 personnes victimes de ces renvois forcés illégaux qui ont eu lieu à la frontière délimitée entre l'Evros, donc c'était sur la période entre juin et décembre 2020. Ces opérations illégales auraient concerné environ 1 000 000 de personnes. Ces renvois forcés et complètement illégaux ont lieu par voie terrestre et maritime. Et le rapport d'Amnesty s'intéresse principalement aux opérations illégales menées dans la région du fleuve Evros, à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. En février et mars 2020, la Grèce a violemment renvoyé des réfugiés et des migrants après l'ouverture unilatérale des frontières terrestres par la Turquie. Depuis lors, ces pratiques, qui constituent des violations des droits humains, sont devenues courantes. Selon Adriana Tidona, spécialiste des migrations en Europe à Amnesty International, il semble y avoir un travail de coordination entre différentes branches de l'État grec. Le résultat, ce sont des arrestations brutales, des centres de détention officieux, de nombreuses violations et des renvois sommaires vers la Turquie. La grande majorité des personnes qui ont été interrogées ont signalé avoir assisté ou subi des violences. Elles décrivent les auteurs de ces violences comme des représentants de l'État grec en uniforme et des hommes en civil. Les témoignages relatent des coups de bâton ou de matraque, des coups de pied, des gifles, des bousculades qui ont parfois entraîné des blessures graves. Les hommes ont souvent été contraints à se dénuder pour se soumettre à des fouilles humiliantes et agressives, parfois sous les yeux de femmes et d'enfants. Dans la plupart des cas, les actes de violence dénoncés bafouent l'interdiction internationale de traitement inhumain ou dégradant. Et certains actes s'apparentent à de la torture compte tenu de leur gravité et de leur caractère humiliant ou punitif. Les renvois forcés illégaux ne se limitent pas aux frontières. Des arrestations et des détentions sont également relatées à l'intérieur des terres grecques. Les personnes arrêtées sont ensuite transférées dans la région de l'Evros en vue de leur renvoi illégal. Et nous, donc il y a eu des personnes qui sont entretenues là pour Amnesty International. 4 personnes arrêtées arbitrairement et détenues dans le nord de la Grèce avant d'être envoyées en Turquie. Et parmi elles figurait une personne qui avait le statut de réfugié et une autre qui avait déposé une demande d'asile. Donc on se rend compte que le droit n'est pas respecté et qu'il y a quand même des pratiques illégales qui deviennent presque systématiques dans de nombreux pays, dont la Grèce. Mais il y a d'autres pays où le sort des réfugiés et des migrants est aussi dramatique. Quoi. Voilà. Et ça, c'est envers le droit international, envers les accords des pays et en toute illégalité. Donc, voilà. C'était juste pour alerter sur ce qui se passe.
OK. Bon, on avait prévu une chronique, pour ne rien vous cacher, une chronique avec un petit enregistrement repris sur le site d'Amnesty France par rapport aux droits des minorités sexuelles LGBTI. Mais la pendule nous condamne à ne pas en parler à cette émission.
Moi, je vous conseille d'aller le voir sur le site d'Amnesty. Voilà. Il y a un petit YouTube sur comprendre les... Les droits
LGBTI. Ça
et c'est vraiment très bien fait. Et c'est ce qu'on voulait vous passer. Donc,
voilà. Ce sera pour une émission de la rentrée.
On voulait le faire en parallèle avec la semaine des fiertés qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et puis la décision
de la Hongrie qui... de rendre semblable à de la pornographie, contexte de protéger les jeunes, de vraiment avoir des
Ça diabolise les personnes qui ont des identités.
Non, c'est-à-dire qu'on considère ça comme de la pornographie ou comme de la pédophilie, et en plus avec des peines si on montre ça à des jeunes, donc c'est du grand n'importe quoi.
Mais on vous en reparlera plus à la rentrée, mais effectivement, parce que l'émission dure qu'une heure, et donc la pendule, c'est implacable.
On est peut-être bavard, ou alors c'est on a implacable. Beaucoup lu,
donc
y a beaucoup
d'infos. On fait la deuxième pause musicale, et on se retrouve juste après.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Donc on vient de réécouter, on vous l'avait passé plusieurs fois cette année, mais comme on a parlé beaucoup des droits des migrants dans cette émission, une nouvelle fois, on vous a passé Au feu rouge de Grand Corps Malade. Voilà. Il suffit d'écouter les paroles, on comprend tout de suite. Donc, pour terminer l'émission, parce que l'heure tourne, on va...
Une bonne nouvelle.
On va vous passer une bonne nouvelle, parce que, bon, effectivement, il y en a.
Heureusement,
ça nous permet de continuer à garder le moral et à militer.
Et la bonne nouvelle, c'est parce que aussi on se bouge. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu des demandes, il y a eu des lettres et tout ça, c'est pas magique, ça ne nous tombe pas du ciel.
Alors je ne vais pas vous lire tout le communiqué parce qu'il est assez long, mais je vais vous faire un petit résumé. Voilà. Et donc il s'agit de deux condamnés à mort au Pakistan et qui s'appellent Shagugfa Kozar et Shakwat Emmanuel, on m'excusera de la mauvaise prononciation, et qui avaient été condamnés il y a 7 ans. Ils avaient été condamnés à mort et ils ont passé 7 ans dans le couloir de la mort au Pakistan pour blasphème. Alors pour vous résumer, effectivement, ce sont deux personnes qui appartiennent à la minorité chrétienne au Pakistan et qui avaient été condamnées pour avoir tenu, soi-disant, des propos blasphématoires contre le prophète Mahomet. Donc voilà, Amnesty s'était mobilisé pour réclamer leur libération. Ça a duré des années, comme souvent quand on fait quelque chose, effectivement. Les différentes sections de l'Amnesty ont écrit à tour de rôle auprès des autorités. Et donc, effectivement, la cour de cassation, enfin, je reprends le... pas vous dire deux bêtises. La cour suprême, voilà, de Lahore, a acquitté le couple. Et on a appris la nouvelle, effectivement, cette bonne nouvelle, le 3 juin. Donc, ils sont libres. Ils sont libres de pouvoir reprendre leurs activités. Ils ne risquent plus la mort. Et c'est effectivement grâce, on en est persuadé, essentiellement à l'intervention et à la mobilisation de tous les militants d'Amnesty International. Voilà. Donc, on voulait quand même vous en parler. C'est important. Vous retrouvez le communiqué de presse qui en parle sur le site d'Amnesty, à amnesty.fr, dans la rubrique des bonnes nouvelles. Voilà, donc c'est très facile de retrouver le texte intégral. Voilà, on va toucher au terme de l'émission, mais avant, il y avait Edith qui
voulait vous donner quelques petites nouvelles disparates. Du monde. Voilà, c'était un petit peu... Alors, je vais choisir, puisque je n'ai pas trop de temps. Donc, il y en a une quand même qui m'a tout à fait intéressée, et elle se passe aussi en France. Donc, il y a 4 dirigeants d'entreprises françaises de surveillance. Donc, elles sont nommées, c'est l'entreprise Amesis et Texa Technologies, qui ont été mis en examen pour complicité de torture pour la vente de technologies de surveillance au gouvernement libyen et égyptien. Et alors, la directrice d'Amnesty Tech, c'est Racha Abdul Rahim, qui dit « Ces mises en examen envoient un message clair » aux entreprises de surveillance. Elles ne sont pas au-dessus des lois et peuvent être amenées à rendre des comptes devant des tribunaux pour leurs actions. Cette histoire illustre également le besoin pressant pour les États de mettre en œuvre un cadre réglementaire de protection des droits humains régissant la vente et le transfert d'équipements de surveillance. Tant qu'un tel cadre n'aura pas été mis en place, il faut appliquer un moratoire sur l'achat, la vente, le transfert et l'utilisation d'équipements de surveillance par des gouvernements liés à des violations des droits humains. Donc ce 22 juin, il a été annoncé que ces 4 dirigeants d'entreprise avaient été mis en examen la semaine précédente par des juges d'instruction du pôle chargé des crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris.
Oui, mais si les trucs de surveillance, là, ils se généralisent et qu'il y en a partout, est-ce qu'on va pouvoir porter plainte contre eux pour crimes contre l'humanité pour nos libertés? Parce que c'est bien joli, là, c'est des sociétés de surveillance, mais on vient justement de dire que tout ce qui était biométrique, etc., ça prend de l'ampleur, que ça plaît bien même aux pays occidentaux et qui veulent le mettre en place. Et donc, c'est quand même dangereux. Hein.
Alors là, effectivement, c'est dangereux. Je pense que le fait qu'il y ait la plainte, enfin, qu'ils aient été mis en examen, c'est que ces entreprises sont accusées d'avoir fourni, donc en premier, les technologies de surveillance au gouvernement de Libye et d'Égypte. Et ces dernières auraient été utilisées pour retrouver des opposants qui auraient ensuite été arrêtés, torturés en prison. Et les dirigeants sont mis en examen pour complicité de torture en Libye, en Égypte, et pour complicité de disparition forcée en Égypte. Donc je pense que c'est aussi le travail d'Amnesty avec les enquêtes sur place qui peuvent remonter sur...
Oui, je suis d'accord.
Voilà, non, mais je veux dire que c'est quand même une première parce que ça se passe là aussi, effectivement. Espérons que ça va porter un peu calme par rapport à toutes ces entreprises. Mais tout ce lien, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Tout a un lien entre eux. Et c'est la nouvelle forme. Enfin, moi, c'est ma position, pour avoir un peu travaillé avec Amnesty depuis quelques années, c'est une nouvelle forme de limitation des droits humains qu'on n'avait pas encore il y a 10 ans. C'est-à-dire que ça tourne très, très vite et que c'est tous ces médias, c'est tous ces modes de surveillance qui, pour l'instant... remplace les militaires qui arrivaient et qui t'arrêtaient chez toi et qui t'emmenaient en prison.
Qui leur facilitent la tâche considérablement.
Voilà, tout à fait.
Qui leur permettent de faire des enquêtes eux-mêmes et qui vont utiliser effectivement les résultats de ce genre d'outils d'investigation.
J'ai encore 2 minutes. Allez, mais je dis juste...
On va reculer. Regarde, on va reculer la pendule de 2 minutes.
Oui, voilà, 2 minutes.
Ah, on va pas y arriver.
Non, juste parce que vous avez peut-être entendu parler des élections.
Manu va faire les gros yeux.
Non, mais Manu, je tiens encore, ça va. élections présidentielles en Iran.
On salue le Manu du laboratoire qui vient d'arriver dans le studio.
Donc, il y a Ebrahim Rezi qui a été élu président de la République en Iran. Bon, pourquoi pas. Mais quand on lit un peu ce qu'Amnesty a fait comme article par rapport à cet homme-là, il a de ses casseroles vraiment pas possible, quoi. Il a participé à en 1988 à exécuter de façon extrajudiciaire des dissidents politiques dans les prisons d'Erbil et de Gohar Shtab près de Téhéran. rebelote après les manifestations de novembre 2019 à travers le pays, eh ben, il est président de la République. Donc, pour plus de renseignements, allez voir l'article d'Amnesty. Mais c'est sympa quand même de voir que plus on est des gros méchants, et ben on peut être aussi président de la République. Ça marche. Voilà. Bon, après, vous ferez les commentaires.
J'aime bien comment tu as dit ta phrase, si on est des gros méchants, on peut être quand même président de la République.
Là, quand on lit tout ce qu'il y a comme casserole, ça se sent. Voilà, ouais. Donc, Amnesty parle vraiment, c'est enquête crime du droit international, effectivement, et on devrait vraiment l'avoir dans un tribunal pénal
ben
international.
Oui. Voilà. Ben oui, mais il y a un tas de gens qu'on aimerait bien voir derrière les barreaux, nous aussi. Mais bon, c'est pas les mêmes que ceux qui y sont généralement.
Voilà.
Donc, on va vous rappeler, donc pour terminer l'émission, on va vous rappeler notre foire au livre de dimanche. Donc, dimanche.
Ah, dimanche, une foire au livre.
Dimanche 4 juillet, avec, comme on disait au début de l'émission, on est très content de vous retrouver, de pouvoir enfin
de
faire.
En vrai.
De faire enfin une action publique. Ça nous manquait depuis plus d'un an. Donc, voilà. Et aussi pour nous soutenir. Donc, des milliers de livres à un prix modique et en très bon état à acheter pour vos lectures. Et pour nous soutenir.
Donc, aussi, c'est à l'espace Saint-Léger.
C'est ça.
Et c'est en extérieur.
C'est ça.
Donc pas de risque. On sera très, très vigilants.
Oui. Oui, on va quand même respecter un protocole sanitaire et des mesures pour assurer la sécurité.
C'est comme ça qu'on a pu ouvrir, qu'on a pu mettre en place la foire.
Donc voilà, et puis sinon, on se retrouve sur l'antenne, bien sûr, de Principe Actif à la rentrée de septembre, deux fois par mois, le mardi, comme depuis pas mal d'années maintenant. On vous rappelle aussi que toutes les émissions depuis des années et des années qu'on a faites dans le cadre des émissions d'Amnesty sont en podcast sur le site de la radio. Le site de la radio, c'est principeactif.net. Et vous avez la liste des émissions diffusées à l'antenne, et dont les nôtres. Effectivement, c'est très facile à retrouver. Et aussi notre autre série d'émissions en cours, qui s'appelle Fréquence Droits Humains. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça. On vous rappelle aussi l'adresse du site d'Amnesty, quand même, pour continuer à vous renseigner pendant l'été, même si on n'est pas à l'antenne, parce que les droits humains, ça ne s'arrête jamais. C'est 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 et 365 jours par an. Voilà, et donc ça s'appelle amnesty.fr. ou amnesty.org, si vous voulez aller sur le site mondial, enfin du secrétariat international, vous avez une version française sur le site international, sans problème, pour pouvoir lire tous les documents qui sont dessus.
Et donc, passez un bel été, voilà. Mais surtout, restez très vigilants à l'actualité, à ce qui se passe en France et dans le monde, parce qu'il y a de quoi quand même s'inquiéter sur l'avenir.
Comment tu disais généralement dans les émissions, Claire Lys, tu disais...
Ça fout les miquettes,
voilà,
le projet de loi.
Oui, le projet de loi en cours, ça fout les miquettes, c'est sûr. Tu voulais dire autre chose, Edith?
Eh bien, je voulais juste te dire que oui, il y avait un film, si vous arrivez à le voir, bon, peut-être pas sur Évreux, mais peut-être ailleurs pendant les vacances, un film coup de cœur d'Amnesty International, qui est l'histoire vraie d'un ancien détenu de Guantanamo, et je cherche le titre, Désigné coupable, voilà, et qui doit sortir le 14 juillet.
Ok, et puis pendant qu'on est dans les renseignements... Dans les renseignements pratico-pratiques, on vous rappelle aussi l'adresse mail d'Amnesty Évreux. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions.
Pour venir nous rejoindre, parce que plus on est nombreux,
plus on sera efficace. C'est clair.
Donc donne-la l'adresse.
Donc l'adresse mail, c'est evreux@amnestyfrance, tout attaché, Amnesty avec un Y, France tout attaché, .fr. evreux@amnestyfrance.fr. Voilà. Eh bien, à bientôt. On laisse la place avec grand plaisir au laboratoire et on se retrouve au mois de septembre.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.